RCF. Qui n'a pas entendu ou fredonné « Toi plus moi » ou « Rue des étoiles » ? Deux de vos chansons, Grégoire, qui vous ont rendu immédiatement célèbre en 2008-2009. Alors bienvenue dans cette émission Visage, dans laquelle nous allons faire davantage connaissance avec l'auteur, compositeur, interprète, mais aussi avec l'homme, dont la vie, nous allons le voir, a été marquée par de grandes joies, mais aussi par de dures épreuves. Alors Grégoire, pour préparer notre rencontre, je suis allé écouter plusieurs de vos albums, depuis « Toi plus moi » jusqu'à la comédie musicale « Bernadette de Lourdes » dont vous venez de composer les musiques. Et dans l'une de vos chansons, intitulée « L'enfance », vous écrivez ceci. « Ça se ressent parfois, ça ne s'explique pas. L'envie de revenir au lieu de son enfance, ivre de souvenirs, le temps de l'insouciance. » Alors si je vous demande, là tout de suite, Grégoire, de fermer les yeux et de me dire... Quelle est la première image de votre enfance qui surgit?
C'est un fond de jardin avec des vieilles pierres, de l'herbe verte et des vieilles pierres, un mur de pierre.
À Senlis?
À Senlis, oui. Des pavés, une cathédrale, une ville, entre guillemets, médiévale. Et c'est un moment... J'ai eu une enfance heureuse parce que on ne s'est jamais soucié de rien d'une certaine manière.
Enfin, pour ça, vous parlez de l'insouciance.
Voilà, oui.
L'insouciance de l'enfance.
Moment, oui, quand on est enfant, on n'a pas tous ces problèmes, j'allais dire, déjà de métaphysique. On vous dit quelque chose et puis vous l'acceptez, que ce soit aussi bien l'existence de Dieu que celle du Père Noël, d'une certaine manière. Vous ne posez pas de questions, vous ne remettez pas en cause le système que vos parents vous établissent. Et voilà, et c'est vrai que c'est des moments... je me souviens des anniversaires, des moments avec les copains, voilà, avec
une enfance heureuse, les souvenirs de l'enfance heureuse.
Moi, j'ai eu la chance de en tout cas, j'allais dire, mes parents n'ont pas laissé transparaître, mais j'ai eu la chance d'avoir l'impression qu'on n'avait pas de problème à joindre la fin du mois. Il y avait toujours quelque chose dans mon assiette, etc. Mmh. J'avais des nouveaux vêtements, on allait les fournitures à la rentrée. Enfin, je faisais un sport et puis une activité intellectuelle, enfin j'avais... voilà.
Ça devait être animé quand même, parce que vous étiez une fratrie de quatre garçons.
Quatre, oui.
Vous êtes le petit dernier des
quatre. Je suis le dernier, non, c'est la meilleure place, je pense, parce que j'étais le chouchou, d'une certaine manière, en tant que dernier. Et puis en plus, quand on est dernier, les précédents essuient les plâtres pour vous. Toutes les ambitions frustrées, tous les conflits, etc. Moi, ça m'a permis très rapidement de comprendre que pour faire ce que j'avais envie de faire, il fallait que je donne aussi à mes parents ce qu'ils attendaient de moi. Et donc, ce côté un peu passe ton bac d'abord. Donc moi, je me suis pas rebellé en disant, de toute façon, je veux faire de la musique, j'ai pas besoin d'avoir un bac. Ils m'ont demandé un bac plus 2.
Vous l'avez fait.
Je leur ai donné un bac plus 2, ce qui me permettait, dans mes temps libres, de me consacrer à ce que je voulais. C'est-à-dire que voilà, mes parents, mais même, je veux dire, en général, quand ils me demandaient de faire quelque chose... si vous demandez de faire de vider le lave-vaisselle, par exemple,
vous étiez le garçon gentil.
Je suis parti du principe que de le faire dans l'immédiat, ça réglait le problème, et moi, ça me laissait directement une liberté tout de suite après, au lieu de me rentrer dans un conflit qui durait 2 heures, de rendre quelqu'un pas content. Enfin, voilà, être docile sur ce qu'on me demandait, tant qu'on vous en demande pas des tonnes et des tonnes, c'est plus simple.
L'image du Grégoire, homme gentil, et c'est pas péjoratif quand je dis gentil.
Non.
Il y a une image de gentillesse qui vous colle à la peau. Ça vient aussi de cette enfance-là. Vous étiez déjà un enfant gentil?
Assez conciliant, en fait. Oui, gentil et puis naïf, d'une certaine manière. J'ai toujours...
Pourtant, on peut se dire avec les grands frères qui devaient vous raconter des histoires.
Oui, non,
on apprend des choses quand on est le dernier aussi.
Après,
très tôt, même, parfois.
Oui, mais quand je dis naïf, c'est dans le côté... je fais facilement confiance et j'ai tendance à penser que les gens ont de bonnes intentions. C'est dans ce sens-là où je suis naïf.
Encore aujourd'hui, Grégoire, malgré tous les coups que vous avez reçus?
Un peu moins, mais d'instinct, oui. D'instinct, oui. Je me dis que, voilà, j'essaie de pas être blasé, pas être cynique.
Alors j'aimerais, Grégoire, connaître l'origine de votre passion de la musique? Parce que j'ai lu plusieurs choses. J'ai lu que c'était à 8 ans que vous aviez vu une vidéo des Beatles. J'ai lu que c'était, non, plutôt votre frère aîné Ludovic, qui lui voulait être musicien, qui vous a encouragé à jouer de la musique. Donc, c'est vrai? Les deux sont
vrais? C'est un mélange de tout.
Ça a commencé comment, votre passion de la musique?
Ma passion de la musique, je ne sais pas exactement, parce que je me souviens que très jeune, avant cette vidéo des Beatles, qui effectivement a marqué un tournant dans ma tête.
À 8 ans?
Vers 8 ans, ouais, 8-9 ans. Mais avant, déjà, j'adorais les chansons, plein de chansons françaises. Je me souviens où je regardais des vidéos et puis je notais les paroles parce qu'on n'avait pas Internet, etc. Donc je notais les paroles pour pouvoir les rechanter après. Donc ça, je me souviens de ça. Après, c'est vrai que j'ai vu une vidéo des Beatles où là, je me suis dit vraiment, j'ai envie d'en faire, j'ai envie d'essayer d'en faire un métier un jour. Ça m'a fasciné.
Vous aviez quel âge quand vous avez eu cette
idée? 8-9 ans. 8-9 ans.
Et ça venait vraiment de vous, ou c'était à cause ou grâce à Ludovic, votre frère aîné, qui avait envie d'être chanteur?
L'avantage, c'est que Ludovic, quand j'ai voulu, par exemple, apprendre le piano, et notamment la chanson Let It Be, il me l'a apprise très rapidement. Donc j'ai un caractère qui fait que je pense que si j'avais pris des cours de piano jeune et qu'on m'avait appris les gymnopédies d'Eric Satie, j'aurais eu du mal et j'aurais peut-être rejeter d'une certaine manière le piano. Là, la première chose que j'ai appris sur un piano, c'est les Let It Be. Donc ça m'a donné envie. Puis ensuite, j'ai découvert Elton John et d'autres chansons. Et donc, à chaque fois, il m'apprenait. Et il avait ce côté de répondre à mes demandes et pas forcément de m'imposer quoi que ce soit. Après, je lui demandais si c'était bien et puis il me corrigeait. Mais donc, c'était un peu un libre service. Et lui, il écoutait en permanence, effectivement. Dès que quelque chose m'intéressait en musique, généralement, il avait le disque. Donc dès que je tombais, quand je suis tombé sur David Bowie, des choses comme ça, j'avais plus qu'à aller dans sa chambre et je récupérais l'intégrale de Bowie. Mmh. Donc c'est vrai que il a été une nourriture permanente, que ce soit dans l'apprentissage ou dans la découverte.
Visage, Thierry Lyonnais.
Oh Grégoire, vous nous l'avez dit il y a un instant, j'étais plutôt conciliant avec mes parents qui me disaient passe ton bac d'abord. Vous avez fait des études de langue, hein, bac plus 2 en langue étrangère.
Appliquée.
LEA, comment ça?
Exactement.
Et c'était déjà avec l'idée aussi de chanter en anglais ou de chanter en espagnol?
Non, parce que alors c'était anglais-allemand.
Anglais-allemand.
Et alors je chantais, non, c'était pas dans cette idée-là, c'était dans l'idée de se dire que j'avais fait un an de droit qui s'était pas très bien passé parce que je m'étais rendu compte que le droit doit être une vocation, hein, sinon on peut pas suivre, c'est trop dense comme étude. Et donc quand je me suis reconverti, en fait, je me suis dit que si je faisais pas de la musique, ce qui m'aurait intéressé, ça aurait été justement d'être journaliste ou en tout cas communicant. Et donc, langues étrangères appliquées, c'est ce qui convenait le mieux, c'est-à-dire on apprenait le marketing, on apprenait pas mal de choses, quelques notions de droit, et donc voilà, c'était quitte à échouer dans ma passion, au moins être dans quelque chose qui soit dans ce genre-là.
Si Grégoire n'était pas devenu chanteur, qu'est-ce que vous seriez aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, je pense que j'ai des vilités de tout ce qui est le cinéma, même l'écriture, les scénarii ou écrivain, j'aurais adoré, mais écrivain, quand je dis écrivain, je parle pas d'être Proust, hein, pas du tout, mais même des livres pour enfants, par exemple, des choses comme ça, ou journaliste, ça, c'est un truc qui aurait pu me passionner. Mais alors journaliste, j'allais dire dans le sens soit des émissions comme la vôtre, pas dans une spécialité, pas journaliste musique, pas journaliste, ou plutôt faire effectivement des documentaires, des choses comme ça.
Et des rencontres.
Oui, voilà. Et des enquêtes sur des choses.
Approfondir.
Voilà, approfondir vraiment.
Grégoire, je le disais, je me suis intéressé à vos chansons et à vos textes pour préparer cette rencontre avec vous. Il y a une de vos chansons qui s'appelle La Chance.
Oui.
Et vous dites La Chance, ça se provoque.
Oui.
Alors, je suis sûr qu'il y a plein de jeunes et de moins jeunes qui disent « Ah Grégoire, quelle chance il a, il est devenu chanteur, il a vendu 2 millions d'albums. » La chance, ça se provoque?
Ah oui, je suis persuadé que tout est un état d'esprit. Et que si on est positif, on voit les choses positives, on voit des signes positifs. Quand on prend du recul, toutes ces coïncidences et ces hasards heureux, d'une certaine manière, sont assez reliés dans l'état d'esprit. Et quand je vois des gens négatifs autour de moi, ils enchaînent les problèmes, parce qu'effectivement, ils y mettent énormément d'importance. Et moi, j'ai eu la chance, alors ça, parce que c'est quelque chose, je veux dire, la seule chance que j'ai eue, c'est qu'effectivement, d'avoir ce côté un peu naïf, et toujours voir les choses de manière positive. Après, parfois, je suis déçu, mais je préfère être dans ce sens-là qu'à l'inverse, c'est d'être...
Parce que c'est vrai que quand on regarde votre carrière, au tout début, donc en 2007, vous vous inscrivez sur le site My Major Company, vous êtes le premier artiste qui a été produit par le public en France.
Tout à fait.
C'est pas de la chance, ça. C'est vous qui avez décidé.
C'est moi qui n'ai jamais lâché. Ouais. C'est moi qui ai présenté ma maquette. Non, j'allais dire la chance. Par exemple, je me rappelle que pendant mon adolescence, j'avais dit à une de mes amies que j'adorais travailler avec Jean-Jacques Goldman et que je lui avais même dit entre nous, je vais travailler avec Jean-Jacques Goldman un jour. Entre-temps...
Et vous l'avez fait.
Mais entre-temps, il avait arrêté sa carrière. Enfin, tous les événements étaient contre moi. Et chez My Major Company, c'est son fils qui l'a créé. Donc quand je suis arrivé déjà, le fait qu'il y ait son fils, je me suis dit, tiens... Allez, faut y aller. Mm-hmm. C'est un signe d'une certaine manière. Et puis ensuite, on s'est rencontrés et j'ai effectivement travaillé avec lui. Tout ça pour dire que... Je suis pas sûr que ça serait passé comme ça si à 16 ans j'avais pas formulé cette idée et ce vœu dans ma tête. Après j'en sais rien, on peut écrire, mais en tout cas toutes les choses qui me sont arrivées aujourd'hui.
Comme quoi Chateaubriand avait raison quand il dit une vie réussie c'est un rêve d'adolescent réalisé dans l'âge mûr.
Exactement.
C'est ce qui s'est passé pour vous.
Oui, je pense qu'il faut absolument se fixer des objectifs et les garder en tête et ne penser qu'à ça. C'est très très important. C'est pour ça que je dis la chance ça se provoque.
Mais alors Grégoire, expliquez-nous parce que il y a plein de gens qui nous écoutent. My Major Company, voit pas trop ce que c'est.
My Major Company, c'est juste des gens c'est une entreprise qui a proposé mes chansons et qui a proposé à tout le monde de pouvoir prendre des parts, en fait. Et donc, chacun avait, sur un ensemble de 100%, un certain pourcentage.
Et donc, ils ont écouté votre maquette, ils se sont dit, oh, c'est bien, j'y crois, et je mets dessus 10 euros, 50 euros, 100 euros pour soutenir le projet.
Voilà, il y a une très jolie histoire là-dessus. C'est quelqu'un qui avait économisé 3 à 4 mois de salaire, même plus. Enfin, pendant presque toute une année, il avait économisé 3000 euros pour emmener sa femme en voyage pour leurs 10 ans de mariage. Et Toi plus Moi est arrivé sur Internet et on lui a proposé, il a regardé sa femme et il avait fait un calcul qui était que si je vendais 50 000 albums, il se remboursait. Et donc il lui a dit, moi je pense qu'il est obligé de se rembourser, il va au moins vendre 50 000 albums, est-ce que ça te dérange pas si je mets l'argent dessus?
Et vous avez vendu combien d'albums?
J'en ai vendu 1,5 million de celui-là. Donc il a fait 20 fois sa mise, donc 3000 fois 20, 60 000 euros, et il a fait le tour du monde avec sa femme.
Et c'est beau, parce que vous avez eu 347 producteurs,
exactement,
je crois, qui vous ont soutenu au tout début, pour produire Toi plus Moi. Toi plus Moi a été un véritable
carton.
Mais l'histoire, c'est ça, finalement. C'est ensemble, on peut faire des choses.
Et ce qui est marrant, c'est que j'ai pas écrit cette chanson pour ça. Je l'avais écrite avant. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment, quand j'écris et je suis dans un état d'esprit Toi plus Moi, j'arrive, on me propose quelque chose de participatif. J'avais d'autres propositions de maisons de disques standard. Mais je me disais, c'est une bonne idée. Il y avait un spectre de Goldman derrière. Enfin, c'est toute une... Alors oui, effectivement, il y a sûrement des parcours qui sont peut-être plus faciles, mais...
Oui, parce qu'il y a des gens qui proposent leur maquette et qui sont partenus.
Oui, mais il y a aussi des choses qu'il faut voir et à un moment des opportunités qu'il faut saisir. J'aurais pu saisir une sorte de facilité, de stabilité en signant dans une maison de disques qui me proposait de l'argent. Eux, ils me proposaient rien. Et ils me disaient, c'est entre guillemets gagnant-gagnant. Soit ça marche, soit ça marche pas. Donc, voilà, il faut saisir les opportunités.
Et Grégoire, ce succès qui vous a fait tout de suite connaître, hein, Toi plus Moi, quelle est la genèse de cette histoire? Puisque vous me dites, c'est pas parce que je voulais séduire les producteurs potentiels.
Moi, j'ai beaucoup de chansons, j'allais dire, intimes. Et puis, c'est vrai qu'à un moment, je faisais des peintures chez un de mes frères. Et je voulais écrire une chanson légère. Et j'ai cette mélodie qui m'est venue dans la tête. Et puis, tout de suite, le Toi plus Moi, le principe de cette équation. Parce que ma mère est prof de maths, peut-être. Et en fait, j'ai mis pas longtemps à l'écrire, et je voulais dire qu'elle était naïve et qu'elle était légère. Elle était faite pour les gens qui sont sur le bord d'une piste de danse dans une soirée, qui osent pas danser du peur du ridicule. Et je pars du principe que c'est ceux qui se moquent qui sont ridicules, pas ceux qui dansent, qui se laissent aller. Et donc voilà, j'avais écrit cette chanson-là et je l'avais avant de rencontrer My Major. Et après, c'est vrai que ça a collé parfaitement.
Et aujourd'hui, quand vous la réentendez, on va dire un peu plus de 10 ans après, Qu'est-ce que vous ressentez?
Ça dépend des...
Est-ce qu'elle vous gêne? Comme souvent, les gens disent, cette chanson qui m'a super fait connaître au début, on parle toujours de ça. Oui, ou est-ce qu'au contraire, vous l'écoutez toujours avec de l'affection?
Non, parce que j'allais dire d'une certaine manière, je l'écoute pas. Mais en fait, ça dépend, c'est très paradoxal, c'est un mélange d'amour et de haine parce que c'est la maman de toutes les chansons, de tout le reste et du fait qu'aujourd'hui je peux encore vivre de ce métier, donc à partir de là, je peux pas, comment dire,
je peux pas la rejeter.
Je l'aime beaucoup et je comprends que les gens l'adorent. Après, en revanche, c'est vrai que elle prend beaucoup de place par rapport aux autres. Donc, mais après, j'allais dire, par exemple, Jean-Jacques Goldman qui a énormément de chansons très connues, dit toujours qu'il suffira d'un signe et une saveur particulière, et c'est vrai.
Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus eux, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, laissez faire l'insouciance à deux, à mille, je sais qu'on est capable, tout est possible, tout est réalisable, on peut s'enfuir, bien plus haut que nos rêves, on peut partir, bien plus loin que la grève, oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus celle.
Grégoire, depuis le début de cet entretien, on sent beaucoup de douceur en vous, y compris dans l'histoire que vous nous racontez de votre enfance. Mais vous avez été aussi marqué par des drames. Et on ne peut pas ne pas en parler. Il y a eu deux drames profonds dans votre famille, puisque sur cette fratrie de quatre, deux de vos frères sont décédés. Ludovic, votre frère aîné, qui est décédé d'un accident de la route en 2002. Et puis il y a eu Nicolas, votre autre frère, qui s'est suicidé en janvier 2007. C'est aussi pour eux que vous êtes devenu chanteur?
J'avais cette idée avant, donc j'allais dire c'est pas pour eux. En revanche, et c'est là où on parlait de la chance et des choses comme ça, j'ai eu une amie qui m'a dit le jour de l'enterrement de Ludovic, donc qui m'avait tout appris, hein, cette amie m'a dit sa mort c'est peut-être ta naissance. Et dans ce moment-là, je trouvais que cette phrase était magique. C'est-à-dire qu'effectivement, qu'est-ce qu'il y a de positif dans ce drame? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et si je regarde avec le recul, ce qui a été positif, c'est que même si mes parents n'ont jamais dit « tu feras pas ça », etc., à ce moment-là, je faisais absolument... ils se sont dit dans leur tête « fais ce que tu veux, la vie est tellement courte, on va pas se battre avec toi si c'est de poursuivre un rêve ». Même sans jamais l'atteindre, qui te rend heureux, soit heureux.
Donc c'est beau qu'ils aient réagi comme ça.
Oui, déjà c'était mon état d'esprit avant, donc de leur faire comprendre que ça servait à rien de se battre. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, il y avait un côté, parce qu'en plus c'était l'aîné, Ludovic, donc ils sont peut-être aussi un peu battus avec lui, pour qu'il rentre dans le rang alors que lui voulait pas. Et puis au final, ça s'est bien fini quand même. Mais il y a ce côté-là, et même surtout les gens autour de, les parents de mes amis, qui eux avaient un côté on est pas sans le tabanque, on est ingénieur ou voilà presque. Et à ce moment-là, parce qu'en plus j'avais écrit un texte pour l'enterrement, et donc pour la première fois certaines personnes entendaient ce que je faisais, parce que je le montrais pas à tout le monde forcément. Et tout le monde s'est dit vas-y, fais-le, parce que de toute façon t'as rien à perdre. Enfin en tout cas c'est sûr que si je fais rien, j'aurais jamais de réponse.
Ose, vis ta vie, quoi.
Voilà, vis ta vie. Et en plus, il y avait effectivement, sûrement, chez ma mère ou chez d'autres, fais-le pour lui. Et c'est vrai que moi,
Ah oui, vous avez senti ça.
Je sais pas si. Je pense que oui, c'est pas impossible. Après, il y avait un côté aussi. Moi, sa mort, ça a fait que Ludovic, il est, d'une certaine manière, j'ai envie de vous dire, rentré en moi. Lui qui était soit à Londres, soit à New York, etc., que j'avais de temps en temps au téléphone, là, il allait ne plus jamais me quitter. Et donc, c'était une force supplémentaire. C'est qu'effectivement, à ce moment-là, je me suis dit, on n'a pas le temps de tergiverser. Moi, j'ai envie de faire quelque chose, je vais tenter. Après, Je ne sais pas si j'y arriverai, mais en tout cas, je vais tenter.
Et Grégoire, quand vous avez écrit cette chanson « Ta main », c'est dur de combattre l'absence, car celle-ci n'en fait qu'à sa tête. J'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps. J'aurais aimé que mon chagrin ne dure qu'un instant. C'est en pensant à Ludovic ou c'est en pensant à Ludovic Nicolas
et à Nicolas. Aux deux. C'était au moment où on était en train de terminer l'album « Topless moi ». Et à ce moment-là, je me suis dit, il n'y a pas de chanson qui leur parle. Et donc, j'ai écrit cette chanson pour ça. Alors, ce qui est marrant, c'est que je l'ai écrite à double sens, parce que quelqu'un qui vient de se séparer, qui a un chagrin d'amour, peut le prendre pour une histoire personnelle. Mmh. Et les gens, puisque j'en avais pas parlé, les gens de même disaient, vous avez sûrement écrit ça pour une ancienne petite amie ou autre. Moi, ça me fait penser à mon grand-père qui vient de partir. Et les gens raccrochaient cette chanson-là aux personnes disparues. Et donc après, à ce moment-là, je me suis dit, je vais l'assumer complètement en disant, voilà, moi j'ai écrit ça pour et ça rejoint avec une chanson qui vient de sortir sur mon dernier album qui s'appelle Chanson pour un enterrement, où là j'ai vraiment, j'allais dire, le titre veut tout dire, hein, j'ai mis les pieds dedans.
Et là c'est explicite.
Voilà, c'est explicite, c'est vraiment pour ce moment-là, parce que ce moment-là doit un moment être dans la... tout le monde passe par là. Tout le monde perd quelqu'un de très, très proche à un moment.
Mais Grégoire, perdre un frère, c'est dur. Perdre deux frères, c'est vraiment terrible. Oui, est-ce qu'on n'a pas le sentiment
non,
que...
Non, c'est moins terrible que de perdre deux fils.
Là, c'est le père qui parle, qui a deux enfants.
Oui, et puis même avant, c'est ce que je me suis toujours dit. Je me suis dit que ma douleur sera toujours moins pénible et moins affreuse que celle de mes parents. Et donc... je pense toujours à eux d'une certaine manière, c'est-à-dire que c'est et maintenant que je suis père d'autant plus, ça doit être affreux.
Qu'est-ce qui vous a le plus aidé à faire le deuil, Grégoire?
Fait-on le deuil d'une certaine manière. La seule chose qui m'aide, c'est de me dire j'ai pas, entre guillemets, c'est pas une question d'aide, c'est une question de qu'est-ce qu'on a à faire? On a à s'arrêter et puis à passer sa vie, à se dire je suis malheureux, c'est pas mon tempérament. Et je pense que c'est en plus, j'allais dire, moi qui ai un côté très compétiteur sur plein de plans, notamment les jeux par exemple, et en plus c'est ce qui est le plus facile à faire, de s'arrêter, parce qu'on a une excuse toute faite et que peu de gens peuvent contrer, hein, même vos amis, hein, si j'étais devenu une sorte de lock enfermé sur une console à me droguer toute la journée, presque personne serait venu me chercher, puisqu'en se disant voilà, mais on comprend pas, etc. Parce que les gens ne comprennent pas, hein. il faut pas se leurrer non plus.
On est très seul,
on est toujours seul, hein. Les gens sont là trois jours, mais même, j'allais dire, même moi, vis-à-vis de mes amis qui perdent quelqu'un, on est là sur le moment, mais puis après on oublie, puis on en reparle pas vraiment, parce que il y a jamais le moment, on préfère passer du bon temps d'une certaine manière, on peut pas leur en vouloir. Mais en tout cas, voilà, mon instinct de survie a fait que je me suis dit vivre à 100%, c'est ce que je me suis dit avec mes frères, c'est-à-dire que leur vie était tellement courte, 33 ans tous les deux, ce qui est quand même ça, c'est d'un point de vue
la date de la mort du Christ,
c'est quand même assez c'est marrant dans un sens un peu bizarre, mais en tout cas il y a quelque chose de cette volonté de vivre, et puis cette idée de le pied de nez, de se dire non, moi je vais pas me laisser abattre.
Tu sais que j'ai du mal encore à parler de toi, il paraît que c'est normal, y a pas de règles dans ces jeux-là. Tu sais, j'ai la voix qui se serre, je te croise dans les photos. Tu sais, j'ai le cœur qui se perd, je crois qu'il te pense un peu trop. C'est comme ça, c'est comme ça. Je vais aimer tenir ta main un peu plus longtemps. Je vais aimer tenir ta main un peu plus longtemps. Ne dure qu'un instant. Et tu sais, j'espère au moins que tu m'entends.
Je vais pas me laisser abattre, Grégoire. C'est assez impressionnant quand on regarde dans votre vie. Effectivement, votre frère Nicolas est mort en janvier 2007. Et c'est en 2007 que vous prenez contact avec My Major Company pour leur proposer Toi plus moi. Et à partir de là, ça s'envole. Le succès.
Mais par exemple,
tout de suite.
Oui, c'est vrai. Oui. C'est, mais j'allais
dire. Il a été votre ange gardien ou...
Je sais pas. Oui. D'une certaine manière, c'est quelqu'un dans ma famille qui, à un moment, moi, c'est une cousine. À un moment, j'écrivais mes chansons. Et cette cousine, ce qui est marrant, c'est qu'elle n'avait jamais entendu mes chansons. Donc, il n'y avait même pas un intérêt. À la suite de la mort de Nicolas, comme ça c'est quand même deuxième, et effectivement, elle m'a regardé un jour, elle m'a dit est-ce qu'il faut il faut que tu enregistres une maquette oui, faut que je contacte telle personne, etc. Elle fait, bah tu l'appelles lundi. Et je lui ai dit oui, je vais le faire. Donc, c'est un samedi. Et le lundi, elle m'a rappelé à 4h de l'après-midi, elle me fait, tu l'as appelé? Je fais non. Elle fait, je te rappelle dans 10 minutes. Et entre-temps, je l'ai appelé, j'ai calé. Et j'ai calé une maquette, en fait. Et j'ai enregistré une maquette avec cet ingénieur du son qu'elle m'a forcé à appeler. Et elle m'a forcé à appeler cet ingénieur du son parce qu'effectivement, elle se dit, maintenant, il faut que tu te bouges. Enfin, c'est bien, tu fais les choses, mais voilà, il y en a deux qui sont partis.
Vas-y, perds pas de temps, quoi.
Et je vais te prendre en main, d'une certaine manière, vas-y. Me mettre un coup de pression. Et donc, ce que je veux dire, c'est que c'est le côté positif de Nicolas. Ça fait qu'après, j'ai enregistré cette maquette, je suis allé voir les gens et qu'effectivement, tout est allé très, très vite.
Et tout est allé très, très vite, Grégoire. Justement, comment vous avez vécu ça, ce succès qui il vous est tombé dessus quand même très vite, là.
Oui, mais ça va moins vite qu'on ne le croit. Contrairement, je pense, par exemple, si on prend les gens de la Star Academy, ils sont enfermés, enfin, les gens de la télé-réalité. Pendant un mois, on les voit à la télé et puis ils reviennent au monde, enfin, dans la rue, et là, tout le monde les voit et ça devient des crises d'hystérie. Moi, comme j'ai pas fait ça, en fait, les gens connaissaient plus ma chanson au début que mon visage. Mm-hmm. C'est à force de faire des télés. Et donc, au fur et à mesure, on se rend compte que la boulangère vous reconnaît, que deux, trois personnes, et puis de plus en plus de gens.
Et ça, on le vit comment? Quand on marche dans la rue?
Ouais, c'est toujours agréable. C'est-à-dire que les gens...
Ils sont gentils plutôt.
Bah
avec
oui,
vous.
Parce que déjà, je sais pas si c'est moi ou pas, mais il y a jamais eu vraiment d'hystérie. Donc les gens sont assez respectueux. Avec ta main, par exemple, les gens viennent me parler de leurs histoires. Enfin, il y a quelque chose qui est très touchant.
Vous n'êtes pas obligé de vous promener avec la casquette et les lunettes noires dans la
Moi, je me promène toujours avec une casquette.
Elle est là sur la table.
En soi, non, le seul endroit. C'était compliqué, ça peut l'être encore, c'est d'être sur une plage l'été. Parce qu'il y a un gros rassemblement de gens, et dès qu'une personne vous voit, elle vous demande une photo, voilà. Quand vous êtes statique à un endroit où il y a beaucoup de gens, parfois c'est un peu gênant, mais sinon, enfin, donc je l'évite. Mais sinon, à part ça, non.
La notoriété est quand même agréable.
Ah ben c'est très très agréable, il y a très très peu de, pour moi en tout cas, de mauvais côté.
Grégoire, les grands moments de joie, là, dans cette carrière. On avait parlé de moments qui ont été durs dans votre vie, mais j'aimerais qu'on parle de grands moments de joie.
Ah, vous parlez de ma carrière.
Oui, dans votre carrière. Dans votre carrière
parce que
de chanteur.
À mes enfants, tout de suite.
En premier, c'est les enfants.
Oui,
d'abord.
Évidemment. Ouais. Enfin, être. C'est...
Alors, on en reparlera dans un moment des enfants. Mais dans votre carrière, qu'est-ce que vous aimez vraiment? Qu'est-ce qui vous donne le plus de joie? C'est de monter sur scène? C'est de composer une belle chanson?
C'est de créer. C'est le studio. La scène, c'est une. J'aime ça, mais j'aime pas partir 3 mois. D'ailleurs, je vais plus faire ça. Je vais faire quelques concerts tous les mois ou tous les 3 mois plutôt que de faire 50 concerts tous les 4 ans. Je préfère faire parce qu'à chaque fois, ce sera quelque chose de nouveau.
Les grandes tournées.
Non, j'en veux plus. Je préfère au lieu de disparaître pendant 4 ans, je préfère être là tous les 3 mois à un endroit, 2-3 jours dans une ville. Ou tous les 6 mois au pire, mais de manière beaucoup plus rapprochée, mais pas beaucoup de concerts. Mais non, ce que j'adore, c'est la création, c'est le studio, c'est chercher quelque chose, d'inventer quelque
L'écriture,
chose.
Ce que vous disiez tout à l'heure, si j'avais pas été chanteur, j'aurais aimé être écrivain.
Voilà, c'est entre la musique et la composition et l'écriture, ça c'est vraiment ça me passionne. Et puis ces rencontres, j'allais dire, parce que les grands moments de joie, c'est aussi ce moment où quand vous poursuivez un rêve et qu'il se réalise, c'est-à-dire que le jour où j'encontre Jean-Jacques Goldman, par exemple, et puis tout ce qui en découle aujourd'hui, le fait qu'on ait travaillé ensemble sur mon deuxième album, le fait qu'on ait écrit des chansons pour Les Enfoirés, le fait que maintenant on a même un échange, j'allais dire, amical, c'est-à-dire on parle de tout et de rien.
Qu'est-ce qui représente pour vous Jean-Jacques Goldman? C'est quoi? C'est un grand frère? C'est un mentor?
C'est compliqué. Quoi, pour moi, c'est vraiment le prof de français qui vous comme Robin Williams dans le cercle des pas disparus. C'est-à-dire qu'à un moment, le... moi, quand la première fois,
c'est j'entends... plus qu'un professeur.
Oui, c'est quelqu'un qui oui, mais qui
doit être disparu, c'est plus qu'un professeur.
Qui vous apprend quelque chose et qui vous apprend surtout la vie en général et qui à un moment ancre en vous cette volonté de d'être libre, indépendant et de faire ce que vous avez envie de faire. C'est qui change tout, alors que vous étiez peut-être destiné à autre chose.
Parce donc, qu'il l'est lui-même. C'est un homme libre, Jean-Jacques Goldman.
Ah, moi je pense, oui. Alors après, il y a sûrement, on a tous des fers d'une certaine manière, mais oui. Enfin, moi, c'est surtout quelqu'un qui pense beaucoup et qui, pour moi, est l'une des personnes les plus éclairées que j'ai rencontrées. Et donc, c'est on en apprend tous les jours avec lui.
Je crois que vous en apprenez tous les jours aussi, Grégoire, avec vos enfants.
Oui. Donc, évidemment.
Ah oui. Vous avez deux enfants, Paul et Léopoldine. Qui ont quel âge là?
6 et 4.
6 et 4 ans, donc vous mettez à leur hauteur. Je sais que vous aimez bien, c'est encore dans les chansons, ça, quand on écoute vos chansons, notamment dans la chanson Mon enfant, hein, vous dites que vous acceptez de vous rouler par terre et de jouer avec eux. Et vous écrivez ceci dans votre chanson Mon enfant. Et je n'étais qu'adolescence, que de folie et d'éphémère, mais tout change avec ta naissance. C'est vraiment au moment où vous êtes devenu père pour la première fois avec Paul.
Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai écrit cette chanson avant qu'il naisse.
Avant qu'il naisse.
Pour un ami qui venait d'avoir une fille. Et c'est ce que j'avais remarqué chez les gens qui devenaient pères. Mais c'est vrai que cette chanson prend tout son sens avec eux.
Je me suis demandé si c'était autobiographique. C'est que alors, vous aviez mené une vie plutôt d'adolescent.
Non, mais je l'ai eu avant. Oui. J'aimais sortir, j'aimais toutes ces choses-là. Après un moment, de toute façon, l'ego se déplace au moment de la naissance d'un enfant. Enfin, en tout cas, chez moi, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire qu'on ne vit plus, on ne vit plus que pour soi. Enfin, on vit pour l'autre. Vraiment. Avant, on peut être généreux, on peut faire plein de choses. Là, il y a vraiment la chair de sa chair qui naît. On est responsable de quelqu'un.
Et on vit plus pour l'autre que pour sa femme, parce que vous étiez marié peu de temps
non,
avant.
Non, parce que ce que je veux dire, c'est que par exemple, j'aurais jamais eu d'enfant si j'avais pas rencontré la femme de ma vie. C'était pas un but en soi d'avoir des enfants. Il faut, c'est ce que disait mon frère Nicolas, malheureusement, d'une certaine manière, mais et c'est une phrase que je trouve assez sensée, qui est assez affreuse, c'est qu'en donnant la vie, on donne la mort. Et qu'à un moment, très rapidement, à l'âge de 15 ans, on devient torturé, on se dit, parfois on a des idées suicidaires, des idées de rébellion, des choses comme ça. C'est très compliqué, hein, je veux dire, de la métaphysique, pourquoi on est là, et pourquoi pas, Dieu ou pas, enfin, toutes ces choses-là, si on commence à y réfléchir beaucoup, ça peut être très compliqué si on n'a pas une certitude, par exemple. Donc, c'est de leur donner, enfin, les déceptions amoureuses, plein de choses, il y a plein de choses comme ça que je leur offre aussi en leur donnant la vie. Là, ils sont dans la force de l'âge, mais plus tard, j'espère en tout cas qu'ils seront très épanouis, mais on verra. Mais donc, il y a ce côté, j'aurais pas donné ça j'aurais pas eu d'enfant s'ils n'étaient pas le fruit d'un amour. Donc, il fallait que je rencontre cette femme, Éléonore, pour avoir envie de leur donner vie dans un climat le plus serein possible.
C'est intéressant ce que vous venez de dire, Grégoire, dans votre chanson « Toujours mon enfant », on retrouve cette notion-là, où vous écrivez « On se demande ce qu'on fait là, la plupart du temps de sa vie, mais tu comprendras le pourquoi le jour où tu auras aussi un enfant. »
Oui, parce qu'on ne vit plus que pour soi, on vit pour l'autre. On vit vraiment, on a une responsabilité, et j'allais dire, on peut avant être là, faire sa vie pour... Je sais pas, à partir du moment où l'enfant naît, de toute façon, on a une responsabilité, c'est de lui offrir toutes les armes dans ce monde pour qu'il soit le plus heureux possible. Et ça, c'est un travail qui est sans fin, d'une certaine manière, puisque, j'allais dire, là, j'en ai deux, ils sont tellement différents que c'est pas du tout les mêmes sujets qu'on doit aborder.
Et alors, comment vous avez réagi? Parce que vous avez peut-être vu le film, le biopic qui raconte la vie de Claude François, qui voulait absolument être une star, un chanteur, et qui a caché la naissance de ses enfants.
Ça, pour moi, c'est incompréhensible. C'est-à-dire que je pense que soit l'enfant n'est pas désiré, d'une certaine manière, soit parfois l'ego. Alors, il faudrait rechercher dans son enfance à lui, hein, mais parfois l'ego est tellement démesuré qu'effectivement, j'allais dire, c'est pas le cas pour tout le monde. Hein. Il y a des gens qui s'en foutent d'avoir des enfants. Moi, je viens d'écrire une chanson sur la maltraitance, parce que c'est quelque chose qui me paraît inconcevable. Comment peut-on s'attaquer à un enfant? Je comprends pas. Mais pourtant, des gens le font. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est effarant quand on voit les statistiques. Donc, il faut, J'allais dire, je parle pas en général, je parle de mon expérience personnelle et j'ai, entre guillemets, de la chance que j'ai d'avoir des gens autour de moi qui sont comme ça aussi. J'ai l'impression qu'effectivement, ces gens-là, on est peut-être, on a des enfants parce qu'on en a envie. Vraiment.
Visage, RCF.
Grégoire, vous êtes un chanteur à l'américaine. J'ai vu ça sur un de vos sites. Vous dites, je suis plutôt un chanteur
à l'anglo-saxonne.
À l'anglo-saxonne, pardon. À l'anglo-saxonne et non pas à la française. C'est-à-dire, je change beaucoup de style.
Je suis libre.
Je suis libre.
Je suis pas dans une case.
Dans les choix musicaux. Et alors, moi, ce qui m'a étonné en regardant tout votre parcours, c'est que bon, il y a des chansons d'amour, des chansons sur l'enfance, des chansons électro, enfin, il y a des choses très variées. Et puis, en 2013, vous avez comme compositeur, vous avez composé et dirigé l'album Thérèse, Vivre d'amour. Vous avez mis en musique les poèmes de Sainte Thérèse de Lisieux, interprétés par Grégory Turpin et Natacha Saint-Pierre. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à cette petite sainte du 19e siècle?
Eh ben, c'est ma femme qui est venue et qui m'a dit, est-ce que tu voudrais pas mettre en musique les poèmes de Sainte Thérèse de Lisieux?
Éléonore de Galard.
Exactement. Ouais. Et je lui ai répondu non. De but en blanc.
Parce qu'elle, elle aime bien Sainte Thérèse, mais vous.
Mais en fait, elle, c'est une idée aussi de son associé, Roberto Sturleo, qui lui adore Sainte Thérèse et puis lui a fait découvrir les textes. Et elle, donc, elle me l'a proposé. Elle s'est dit pourquoi pas. Et donc, j'ai répondu non, but en blanc. Moi, je sors de deux albums très populaires. J'allais dire, d'un point de vue plan de carrière, c'est pas. Je suis pas forcément pratiquant, j'ai une spiritualité très aiguisée d'une certaine manière, mais j'allais dire, j'ai un détachement avec le fait de
d'appartenir à une église, à une institution.
Surtout d'y aller en fait. C'est-à-dire que j'ai parfois pas l'impression que c'est comme un repas de famille. Et je peux comprendre quand on est petit que ce soit très très long.
Et vous êtes encore petit.
Mais j'aime bien j'aime bien je préfère aller dans une église seule pendant longtemps par exemple ça et puis je me suis souvent rendu compte que il y a des gens qui n'y vont pas qui sont beaucoup plus chrétiens que certains qui y vont mais j'aime bien y aller hein quand j'y suis tout va bien après c'est pas quelque chose que je fais régulièrement
mais et alors Sainte Thérèse
et donc je dis
vous
non.
Avez accepté quand même
bah oui je dis non parce que sur le principe souvent je dis non puis après je dis oui c'est plus facile alors que quand on dit oui c'est compliqué de dire non après et puis elle me dit ah bon ok tu verras ça s'appelle Vivre d'amour son texte le plus connu bon je suis ok. Et dans 5 minutes après, comme je suis curieux et qu'elle le sait, c'est là où elle est très intelligente, je vais lire le texte « Vivre d'amour ». « Vivre d'amour, c'est donner sans mesure, sans réclamer de salaire ici-bas. » C'est les premières phrases que j'ai lues. Cette fille-là est morte à 24 ans. Elle écrit mieux que pas mal de gens qui sont beaucoup plus âgés. Et c'est d'une actualité assez incroyable. Et surtout, en fait, dans son message, il y avait un côté « Ayez une foi, quelle qu'elle soit, une passion en votre... avec la personne avec qui vous êtes, avec une foi dans la musique, dans ce que vous voulez, et servez-vous-en pour faire des choses, de belles actions au quotidien, des choses simples.
Et faire du bien aux autres.
Voilà. Mmh. Et Mère Teresa, d'ailleurs, s'appelle Teresa grâce à Sainte Thérèse. Et donc, j'ai eu envie de le faire, et j'ai écrit « Vivre d'amour » presque dans la foulée. J'ai dit « Tiens, j'ai fait ça ». Alors ma femme était en larmes à la fin de la chanson.
C'est vrai que la musique est venue très vite. Ouais. Moi, j'avais lu quelque part que en 10 minutes, vous avez lu ce texte et la musique est venue.
Oui, parce que c'est. Après, j'allais dire, ça faut pas dire que c'est. Je suis pas du tout partisan du côté l'inspiration, le coup de génie. Il y a pas du tout de ça. Moi, je travaille tous les jours pour les jeunes qui nous écoutent. Et d'ailleurs, tous les artistes que j'admire le faisaient aussi. Moi, je travaille tous les jours, tous les matins, je m'y mets et il y a des jours où ça vient. Pas du tout. Et c'est pour ça que parfois ça vient en 5 minutes, parce que c'est tous les jours, j'allais dire, je remets 100 fois mon travail, enfin, je travaille en permanence. Mmh. Donc, quand ça vient, ça vient.
Et effectivement, quand et là, c'est venu.
Et c'est venu comme ça. Et donc, je lui dis, ok, je le fais. Et le quand dira-t-on, c'est mon côté provoque aussi. Je voulais dire, on parle que de la religion, enfin, en tout cas dans les médias, on parle généralement de la religion avec ses mauvais côtés. Et principalement que de ça. Donc moi, de parler d'avoir un langage qui ne soit pas prosélyte et qui soit en plus sur la base d'une religion, c'est-à-dire l'amour en soi. Et moi, ce que j'ai retenu de mes cours de catéchèse, c'est aime ton prochain comme toi-même. Donc il y a ce côté-là. Et donc j'ai accepté en me disant oui, je le fais parce que j'ai envie de le faire.
Et Grégoire, qu'est-ce que la lecture attentive de ces textes de Sainte Thérèse de Lisieux a changé dans votre spiritualité qui est la vôtre?
ça n'a pas changé grand-chose d'une certaine manière, parce qu'au final, c'était assez proche de ce que je ressentais. Après, ça a exacerbé ce côté, effectivement, de faire attention à ce qui m'intéresse, c'est-à-dire les fleurs, le chant des oiseaux, toutes ces choses-là, tout ce que nous offre la nature, d'une certaine manière. Et puis, en même temps, vraiment ce quotidien de vivre. C'est ce que j'aime d'ailleurs dans le discours de Nietzsche, hein, ce qui est paradoxal d'une certaine manière, mais beaucoup trop de gens ne passent leur temps dans cette vie à ne vivre que pour la vie d'après, en oubliant de vivre la vie d'aujourd'hui. Et moi, donc voilà, ce quotidien de rester fidèle à ce qui se passe et de faire attention à son monde autour de soi, déjà. C'est déjà un premier pas. Et donc voilà, Thérèse, elle a exacerbé ça. La simplicité, dans le bon sens du terme. Parce qu'au final, les plus grandes joies, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Grand-mère, où je fais un peu un bilan de ça, mais l'odeur du pain, le feu de bois, l'herbe mouillée, la grand-mère, sa tendresse, sa douceur, toutes ces choses-là, c'est au final ce qui reste. Hein. C'est pas une grande télé, un grand canapé, c'est pas le matériel. Hein. Et c'est souvent des toutes petites choses.
C'est drôle, ça rejoint le tout début de notre échange. Première image de l'enfance, les pierres, un mur en pierre, exactement. Un jardin.
Je vais pas dévoiler la fin, mais c'est complètement Citizen Kane, hein, c'est-à-dire c'est vraiment ce chose-là. On est là.
L'homme milliardaire qui se retrouve seul, entouré de caisses non ouvertes d'œuvres d'art qu'il a achetées dans son immense château, et il est seul.
Et la seule chose qui reste, alors bouchez-vous les oreilles si vous l'avez pas vu, mais la seule chose qui reste, c'est effectivement le traîneau de son enfance où il allait jouer dans la neige. C'est ça. Et je pense que, et j'ai entre guillemets la chance de m'en rendre compte aujourd'hui, je pense. Et donc, et même les grandes histoires d'amour, elles sont, à l'époque, on croyait que c'est insurmontable. Au final, la plus belle, c'est celle que je vis aujourd'hui. Donc, voilà. Mais la douceur d'une grand-mère, toutes ces choses-là, c'est ça qui reste vraiment.
Vivre d'amour, c'est donner sans mesure, sans réclamer de salaire ici-bas. Sans compter, je donne étant bien sûr que lorsqu'on aime, on ne calcule pas. Au cœur divin débordant de tendresse, j'ai tout donné, légèrement je cours. Je n'ai plus rien que ma seule richesse. Vivre d'amour. Péchés, je ne vois nulle empreinte. En un instant, l'amour a tout brûlé. Flamme divine, notre douce fournaise. En ton foyer, je fixe mon séjour. C'est dans tes feux que je chante à mon aise. Je vis d'amour.
Alors, Grégoire, on disait en 2013, vous travaillez sur cet album de Thérèse, et puis après, vous avez écrit des chansons, je dirais, dans votre répertoire habituel.
Profane.
Allez, on utilise le mot profane. Et puis, de nouveau, vous vous intéressez à une autre sainte, Bernadette de Lourdes. Donc là, vous avez participé à cette comédie musicale écrite par Lionel Florence et Patrice Guirao. Un spectacle qui se jouera uniquement à Lourdes à partir du 1er juillet 2019. Vous avez composé intégralement la musique de cette comédie musicale. Alors là encore, c'est votre femme qui vous a donné envie de vous engager. C'est encore elle.
C'est encore elle. Mais justement, c'est à la suite de Thérèse. Ils avaient tellement aimé ce que j'avais fait, la mise en musique des poèmes de Sainte Thérèse, qui sont venus tous les deux et qui m'ont dit, voilà, est-ce que ça t'amuserait de faire ça?
Et là, vous avez dit non aussi? Et puis non. Oui après? Ou là, vous avez
non,
dit
non? Non, j'ai juste dit, déjà, je trouvais l'idée géniale, c'est-à-dire le fait qu'elle soit à Lourdes. En permanence.
Présenté uniquement à Lourdes, hein. Uniquement pas à Paris.
Surtout, en fait, l'idée, c'était pas que ce soit à Lourdes en soi. Après, je trouve ça encore mieux parce qu'on peut aller visiter les vrais endroits ou les lieux où ça s'est passé. Donc, je trouve ça génial, moi. Mais à côté de ça, surtout, c'était l'idée d'avoir un lieu précis et dans une salle précise et de manière permanente, un peu comme ce qui se fait au niveau des comédies musicales à Broadway. Et donc, il y avait ça déjà, c'est vraiment une idée qui me plaisait de me dire, on n'est pas là à faire des tubes radio pour que ça passe partout, que pendant 3 mois ce soit dans une grosse salle parisienne, que ça parte en tournée, que c'est fini. Mmh. Non, là il y a un projet, si ça doit durer 20 ans, ça va durer 20 ans. Et puis il y a même maintenant un projet d'exportation, donc on va à l'étranger, il y a plein de choses. Mais déjà ce postulat-là, ensuite l'histoire de Bernadette et le fait aussi d'être l'unique compositeur, parce que c'est ce que je voulais pas être au milieu de... Je voulais, moi, avoir en charge la musique. Voilà, tout ça m'a paru...
Tu n'as pas juste écrire 2-3 chansons, mais non, vraiment parce que moi, les comédies musicales.
Voilà, moi, les comédies musicales que j'aime, c'est souvent un groupe d'auteurs et un groupe de compositeurs, et c'est homogène, ils ont tout fait du début à la fin. Donc c'est pour ça que l'idée m'a intéressé tout de suite, et puis l'histoire de Bernadette est absolument incroyable.
Alors justement, Grégoire, qu'est-ce qui vous a touché dans le personnage de Bernadette, cette fois-ci? Petite Bernadette Soubirous.
Son intégrité. Et ça rejoint ce qu'on disait par rapport à la mort d'un proche. C'était plus facile de rien dire.
Ça aurait été plus facile pour elle de rien dire.
Une fois qu'elle a commencé à dire et que tout le monde lui tombe dessus, que ce soit le clergé, la police, la médecine, enfin la science, ses parents, le qu'en dira-t-on, la rumeur, toutes ces choses-là.
Tout le monde lui tombait dessus. Hein,
tout le monde, elle a fait.
Personne ne la croyait.
Elle a failli finir en prison. Elle n'avait aucun intérêt à continuer à le dire. Elle n'avait aucun intérêt à... Et donc, c'est ce que je trouve fort, c'est son intégrité. Moi, et ce qu'il y a de fort dans ce spectacle, c'est qu'on ne dit pas qu'elle a vu ou pas. On raconte l'histoire de Bernadette, qui, elle, dit qu'elle a vu quelque chose. Et d'ailleurs, elle a vu quelque chose à Quéro.
Mais c'est important le mot. Hein,
elle... À Quéro.
À Quéro.
Oui, ça veut dire cette chose-là en occitan. Et en fait, oui, elle a vu quelque chose. Et d'ailleurs, elle demandera son nom simplement quand le prêtre lui dira « Mais comment ça s'appelle ?» Il faut que tu lui demandes son nom. Et donc, elle y va et elle répète tout le chemin « Immaculada Concepcio ».
L'Immaculée Conception.
Et c'est des mots qu'elle ne peut pas avoir inventés d'une certaine manière. Bon, après, ça j'allais dire, là, on commence à dévier sur la subjectivité. Mais nous, on raconte juste ce qui s'est passé. Il y a 150 ans, une jeune fille de 14 ans dit avoir vu quelque chose. Et au final, 150 ans après, il y a 3 à 6 millions de personnes qui viennent tous les ans dans cette ville et qui viennent jeter énormément d'espoir. C'est peut-être la seule ville au monde où on repart avec de l'espoir, Lourdes. Et c'est une ville où il y a une solidarité et il faut absolument, effectivement, voir le documentaire.
Il faut voir absolument le documentaire de Thierry de Mézières et d'Alban Turlet, oui. Lourdes. Vraiment, on le recommande.
Et ces gens, ces jeunes qui... quand vous allez dans un hall d'hôtel à Lourdes et que vous voyez tous ces jeunes qui accompagnent des personnes invalides et qui les déshabillent, qui les portent, qui les emmènent dans la piscine, enfin, c'est... Franchement, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu nulle part, autant d'échanges, autant de sourires. Et quand vous repartez de Lourdes, vous êtes plus léger. Et franchement, si on m'avait dit qu'il y a 5 ans, je dirais ça aujourd'hui, je sais pas si j'aurais signé. Je vous le dis vraiment, et ce spectacle va être absolument, on a un metteur en scène qui s'appelle Serge Deloncourt, qui est absolument incroyable. Ce spectacle va être magnifique. Et parfois même, j'y étais il y a pas longtemps, j'ai un peu de je veux dire, je suis un peu mal à l'aise de dire ça, tellement je trouve ça incroyable. Et d'ailleurs, quand j'y ai participé, parfois, je me dis, tiens,
c'est vraiment de la grosse production.
Ah, mais je pense que c'est
musical. Là, on n'est pas dans l'amateurisme.
Non,
on est dans du professionnalisme.
Ah, c'est Broadway à Lourdes, je pense. Hein. Le metteur en scène, Serge Deloncourt a travaillé avec le Cirque du Soleil. Il a fait énormément de spectacles au Canada qui sont reconnus mondialement. Lionel Florence et Patrice Caro ont écrit Les Dix Commandements, la comédie musicale de Pascal Obispo. Ils ont fait Robin des Bois, ils ont fait Le Roi Soleil. Lionel Florence a quand même écrit Lucie, Savoir aimer, énormément de chansons que tout le monde connaît. Vivre pour le meilleur de Johnny. Et moi, j'ai travaillé, j'ai fait toutes les mélodies et au niveau des arrangements, j'ai travaillé avec Scott Price, qui est le chef d'orchestre et le directeur artistique de Céline Dion à Las Vegas, partout d'ailleurs dans le monde. Donc, on est une grosse équipe et les décors, la grotte a été reconstruite à l'identique. Les décors sont absolument incroyables. Et c'est vraiment ce qui est en train de se passer, c'est que ça va être un film sur scène.
Alors, justement, vous visez quel public? Pour ces gens musicales à Lourdes.
On vit surtout les gens qui viennent à Lourdes. C'est-à-dire que après, ce serait génial, mais tous les gens qui sont dans la région. Déjà aussi, j'aime bien l'idée de décentraliser. Tout ne se passe pas qu'à Paris. Mais on vise tous les gens qui ont envie de voir quelque chose d'absolument incroyable. C'est-à-dire un spectacle de grande envergure et pas forcément à Paris.
Et alors, ce message de Lourdes, comment vous le comprenez, vous, Grégoire?
Ouais, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que pour moi, son l'intégrité de Bernadette, le fait de rester toujours droit dans ses bottes, comme elle disait, je suis pas chargé de vous faire croire, je suis chargé de vous le dire. J'aime bien cette idée de non-prosélytisme, et puis j'aime cette idée d'espoir, en fait, de Lourdes. Quand la science, à un moment, dit « nous, on sait plus quoi faire », beaucoup de gens, et pas mal d'athées même, vont à Lourdes. Donc il y a ce côté très... Voilà,
il y a de l'espérance.
Il y a de l'espérance, il y a de l'espoir, il y a de la solidarité.
Même si beaucoup repartent sans être guéris, parce que des guérisons, évidemment, il y en a très peu à Lourdes. Hein, 70 guérisons officielles.
70 miracles.
70 miracles.
Et 16 000 guérisons inexpliquées. De toute façon, moi,
Des millions qui repartent sans être guéris.
Oui,
après. Mais il se passe quelque chose malgré tout.
Oui, il se passe quelque chose. Moi, je me rappelle d'un médecin. Moi, je suis allé voir pas mal d'enfants qui... dans des services hospitaliers et qui demandent parfois à voir des chanteurs et parfois c'est moi qu'on demande et j'y allais et le médecin me disait vous savez, vous guérissez peut-être pas mais vous créez quelque chose chez l'enfant et c'est ce que quand on parle de la chance, quand on parle de cette pensée positive le fait de vous voir être réalisé un rêve, l'enfant parfois même il y a des réactions physiques positives des créations de globules blancs, des choses comme ça qui se passe et qui ne se serait pas passé autrement. Donc, le fait d'aller à Lourdes, les gens repartent avec un sourire et avec un espoir. Et donc, forcément, de toute façon, dans un meilleur état d'esprit que de rester chez eux quand ils sont effectivement confrontés à ça.
Le fait d'être regardé comme une personne, c'est ce qui ressort beaucoup dans le documentaire sur Lourdes.
Oui.
Je suis gravement handicapé, mais à Lourdes, je suis regardé comme une personne.
À Lourdes, tu allais dire, le fauteuil roulant, c'est la norme, d'une certaine manière. Et oui, si vous venez à Lourdes et que vous êtes là, vous manquez, enfin, ça n'a pas sa place. C'est effectivement, c'est tellement, c'est une ville où tout le monde et notamment effectivement beaucoup de gens invalides, sont là et donc voilà, c'est un autre monde, mais c'est le monde devrait être comme ça, hein, j'allais dire. Là-bas, tout est fait pour. D'ailleurs, dans la salle de spectacle, il y aura.
Beaucoup de places.
Plus d'une centaine de places pour les personnes invalides qui sont au premier rang, tous dans aux meilleures places. Et normalement, cette année, ce sera même gratuit pour eux, puisqu'une fondation a gentiment financé ces places-là.
Quand on sait que l'amour ne porte pas de nom.
Pour terminer cet entretien, Grégoire, aujourd'hui, l'homme de 40 ans là, qui est devant moi, qu'est-ce qui le rend le plus heureux ?
Ah, mes enfants.
Tout de suite,
ma vie de famille. Enfin, quand je dis mes enfants, je pense à ma vie de famille, à ma femme, etc. Oui, oui, oui. De toute façon, je pense que si vous basez votre bonheur sur votre succès, votre notoriété, même sur votre travail, c'est-à-dire que donc ça veut dire que votre humeur va en fonction des hauts et des bas de ces choses-là. J'allais dire c'est quelque chose de tellement impalpable, surtout dans notre métier, mais même dans d'autres métiers, que j'allais dire ce qui est important, c'est le quotidien. Et comme j'en parlais tout à l'heure, ce qui va rester, ce sont des mots de mes enfants, des choses comme ça. C'est pas c'est les moments que je passais avec ma femme. C'est pas du tout tout ce qui est le matériel, ces moments. Les gens passent, les gens vont et viennent dans ce métier. Enfin, et tout est éphémère. Et puis nous, on écrit une chanson, et puis après, on en écrit une autre. Enfin, on avance, on fait plein d'autres choses, plein d'expériences différentes. Donc, moi, ce qui me rend le plus heureux, c'est effectivement ce quotidien. Ces choses que j'entreprends au fur et à mesure. C'est vraiment la vie au jour le jour. Et essayer de faire en sorte qu'elle soit la plus belle possible pour tous ceux qui m'entourent.
Ben merci beaucoup, Grégoire, d'être venu nous partager votre expérience. C'est d'ailleurs le titre de votre nouvel album.
Exactement.
Expérience. Et puis, bien sûr, je renvoie à cette comédie musicale Bernadette qui va être donnée à Lourdes à partir du 1er juillet 2019. Un grand spectacle à ne pas manquer pour tous ceux qui se rendront à Lourdes.
Tout à fait.
Au revoir, Grégoire.
Merci beaucoup.
Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, réalisation technique Philippe Faure.